voilà, devant le Seigneur. On en prend conscience, et conscience aussi que nous sommes devant les frères et sœurs. Il ne faut pas les négliger, les mépriser, les oublier. Il n'y a pas de chemin vers Dieu sans se tenir la main, sans se rapprocher des autres. On ne s'approche pas de Dieu sans s'approcher des autres. Vous auriez voulu une votre religion à vous tout seul, avec votre Dieu à vous tout seul. Rien sans les autres, rien sans Dieu. Nous allons lire ensemble dans l'épître de Jean, premier épître de Jean, pour vous parler de ce grand mystère qui se passe à chaque instant de chaque jour. Et il faut qu'on en ait conscience. 1 Jean, tout à la fin de la Bible, chapitre 1er, verset 5. Verset 3, pardon. 3. 1 Jean 1, 3. Parole du Saint-Esprit, nous t'accueillons, Seigneur. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec Dieu. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Nous pouvons nous tromper, mes amis et frères et sœurs. Nous pouvons dire que nous sommes en communion avec lui. Or, nous ne sommes pas en communion avec lui si nous gardons dans nos cœurs le péché. Nous pouvons nous tromper sur nous en pensant qu'on est sauvé parce qu'on est baptisé, alors que nous vivons à la manière de Satan. Si nous ne voyons pas la nécessité de demander pardon chaque jour, C'est un aveuglement. Nous nous trompons, nous nous séduisons. On peut se tromper. L'apôtre dit ici, il faut, ça c'est l'introduction, il faut marcher dans la lumière, sans rien cacher. Celui qui cache ses fautes ne prospère pas, ni mentalement, ni spirituellement, ni matériellement, ni physiquement, il ne prospère pas. Ils tourneront. Regardez le pouvoir du mal. Il n'est pas là pour parler tellement du diable. Mais le malin nous persuade que, comme nous l'avons lu au verset 8, que nous n'avons pas péché. On pense à des choses faramineuses, folles, puis on dit « j'ai pas péché ». Si nous disons, verset 8, que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous pensons que nous n'avons pas de péché ou que nous ne pouvons pas pécher, on n'est plus en alerte. On n'est plus en alerte sur la tentation. On n'est plus en alerte dans la prière. On n'est plus en alerte sur les manœuvres et les ruses de Satan. On est un peu tout fou. On ne voit plus le serpent qui se couche à notre porte. Mais béni soit le Seigneur, Dieu nous pardonne parce qu'il est fidèle. Amen. Si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire en pleine lumière, on ne cache rien, on le reconnaît, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Fidèle parce qu'il ne peut pas dire oui et non. Il a dit qu'il nous pardonnait, il ne fera pas le contraire. Juste parce que son Fils a offert le sacrifice. Par conséquent, devant le Christ qui s'est crucifié, qui a été crucifié pour nous, Dieu ne peut pas ne pas nous pardonner si nous confessons nos péchés dans la lumière. On dirait, c'est trop facile, frère, on me l'a dit. On demande pardon, puis c'est fini. C'est trop facile, vous parlez du péché, et puis ça va. Je vous rappelle que l'apôtre Jean, ici, il dit, « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. » Le but de la prière, c'est qu'on finisse par ne plus pécher, qu'on finisse par régler le dérèglement de nos pensées charnelles. Le but de la prière, c'est qu'on remette les pendules à l'heure. Le but de l'enseignement sur le péché, c'est que l'on arrête. Amen jusque-là ? Pas amen ? Et là, on en vient, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus disait, le Père vous enverra un autre consolateur, vous savez la parole, hein, le Saint-Esprit. Un autre, ça veut dire que lui-même, Jésus, se considère comme un consolateur. Mais le mot en grec, il se considère comme un avocat, un défenseur. Oui, le Saint-Esprit, c'est un avocat qui nous défend quand on est dans la tentation, quand on va partir avec un garçon, une fille, je ne sais pas, il nous défend, il nous protège. Mais Jésus lui-même se dit consolateur. Et s'il est remonté auprès de son Père, c'est comme un défenseur, un avocat qui va prier pour nous sans cesse. Je vous dis une grande vérité, j'essaie de rentrer dans les vérités le plus possible. L'œuvre de la croix, ce n'est pas seulement une heure, un jour. L'œuvre de la croix, c'est pour que cette œuvre se propage continuellement dans tous les siècles, dans tous les millénaires, dans toute l'éternité. avant le Christ, après le Christ. L'œuvre de la croix pour notre pardon, elle est continuelle. D'ailleurs, l'apôtre Jean dit « Il est une victime ». Il n'a pas dit « Il était », il a été autrefois sur la croix, au temps de Ponce Pilate, il est une victime. Aujourd'hui, c'est un Christ sacrifié que nous prions. C'est un Christ qui s'est immolé et qui reste avec la marque de la croix sur lui. Et le Christ sauve tous ceux qui s'approchent de lui, parce que quand on s'approche de Jésus, lui, il intercède pour nous en notre faveur. C'est un travail permanent. Il y a une action réelle de Jésus, une intervention réelle de Jésus dans chaque secours, dans chaque pardon, dans chaque conversion, dans chaque souffrance, dans chaque détresse. Jésus prie, il intervient. Ce n'est pas le Christ d'hier seulement, c'est aujourd'hui. La prière d'intercession, Jean chapitre 17, elle couvre tous les temps. Il l'a donnée une fois, à la veille de mourir, mais elle couvre tous les siècles. C'est toujours la même. « Je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Ça n'arrête pas de crier dans le ciel. Jésus nous défend. Je trouve ça confortable, non ? Défend des pièges de Satan. Il nous défend de nous-mêmes aussi, parce que nous pourrions nous-mêmes nous condamner en disant j'ai mal fait, je ne suis pas digne, je ne vaux rien, je ne suis rien. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Il nous défend dans la tentation. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Il nous enseigne la tentation, veillez et priez afin de ne pas tomber, de ne pas entrer dans la tentation. Il nous apprend à prier, Seigneur, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est quelque chose d'important, la tentation. Et si Jésus en parle, parce que c'est monstrueux. Des gens ne sont pas arrivés au bout du voyage, comme les Israélites dans le désert, parce qu'ils ont été tentés. Notre vie est continuellement, par cet avocat, par ce défenseur, notre vie est continuellement portée devant Dieu. Vous me dites souvent, priez pour moi. J'essaie de noter tout ce que vous me dites. Mais il m'arrive certainement d'oublier des choses. Mais je veux vous rassurer en vous disant, je suis un être humain, je peux oublier des choses. Mais je peux vous dire que votre vie, elle est en permanence, dans chaque instant que vous vivez, présentée devant le Père. Amen. Épître aux Hébreux. Le Christ comparaît maintenant pour nous devant la face de Dieu. Je sais qu'il prie pour moi, même quand je dors. Alors, il ne faut pas avoir peur de demander pardon à Dieu. Des chrétiens de chez nous m'ont dit « Je ne peux plus prier parce que j'ai commis ce péché, je ne suis plus digne, je ne peux plus prier, je ne peux plus venir à l'église, je suis perdu. » Qu'est-ce que c'est que ça ? Il ne faut pas avoir peur de demander pardon et d'implorer sa miséricorde parce que c'est la prière de Jésus, lui-même. Il le demande, Jésus, et vous ne le demandez pas. N'ayez pas peur, puisque Christ est mort pour les péchés. Amen. Mettez tout ça dans votre prière personnelle. Faisons bien attention, il y a la prière publique et la prière personnelle. La prière d'église et la prière personnelle. Et dans la prière d'église, vous m'avez déjà entendu, je ne mets pas tout ce que je vis, tout ce que je vis, tout ce que je fais, toute ma famille, tout ce que je peux subir, je ne mets pas mon intimité dans ma vie de prière publique. Sinon, je vais en remplir des pages et des kilomètres et des années et des années. Puis les autres n'auront pas le temps de prier. Dans la prière publique, je dis tout ce qui intéresse tout le monde. Et dans ma prière privée, je dis 100 fois plus, parce que là, je suis en communion avec celui qui est là-haut pour moi devant le Père, sans cesse, en prière. C'est beau ? J'ai regardé les alpinistes, je ne suis jamais allé voir ça de près, mais il y a un premier de cordée qui monte la montagne, les falaises de la montagne, et derrière lui, il y a des alpinistes qui suivent. Il y a un premier de cordée, ça s'appelle, qui ouvre le chemin. Et Jésus, c'est un premier de cordée. Il ouvre le chemin. Je suis le chemin. Personne ne va au Père pour la prière, pour le salut, que par moi. C'est moi qui ouvre. C'est moi le défenseur. Nous avons un avocat, un défenseur. Nous sommes défendus jour et nuit, comme la nuée qui sortait de l'Égypte avec les enfants d'Israël et qui se mettait devant les enfants d'Israël, qui se mettait derrière, qui se mettait devant et qui se mettait derrière. Puis elle était lumineuse, puis elle était obscure, et puis elle était devant, elle était partout cette nuée, elle était sur eux. Et nous avons une nuée, c'est Jésus-Christ, le défenseur, l'avocat, le médiateur. Amen. C'est une défense magnifique. Pas pour nous empêcher de tomber dans la tristesse. On a des moments durs dans la vie. Parfois j'ai entendu des choses aberrantes. Un chrétien est toujours content. Moi, je ne suis pas content de ce qui se passe en Syrie, et vous ? Pas content de ce qui se passe dans certains pays d'Afrique et en France. On n'est pas toujours heureux. Le Seigneur ne prie pas pour que nous ne soyons jamais dans la tristesse. Vous aurez des tristesses. Jésus l'a dit. Mais pour que nous puissions ne jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Dans les abîmes, dans les jours de découragement, des jours où on n'a pas envie de se lever, qu'on reste attaché au Seigneur. Amen. Mais j'ai besoin de la foi pour tout ça. Il faut que je sache, je ne suis pas sous anesthésie générale en train de crier Alléluia. Je suis dans la conscience que Dieu fait quelque chose là-haut pour moi, à l'heure où je suis. Amen. Il faut que je le sache. C'est ça la foi. La foi, c'est savoir. Il faut que je sache, devant les difficultés, que le secours me vient du Seigneur, qui ne permettra pas que mon pied chancelle. Il faut que je sache que devant la mort, j'ai un défenseur. Il faut que je sache que sous les flèches de Satan, j'ai un avocat, j'ai un bouclier. Il faut que je sache qu'il vient à mon secours, même si je ne le vois pas. Pourquoi il faut toujours voir ? Même si je ne l'entends pas, il est là, comme il a secouru Jaïrus, ne crains pas, crois seulement, comme il a secouru Lazare dans son tombeau, le premier-né, l'aveugle né, pardon. Maintenant, partout, en tout temps, demain, Jésus est à l'œuvre pour nous, parce qu'il prie pour nous. Amen. C'est pourquoi Jésus disait, « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que là, je pourrais faire tout et vous suivre dans tous les instants de votre vie. » Il vient à notre secours par la consolation aussi des frères et des sœurs. Ne l'oubliez pas. Si nous sommes consolés par le Christ, disait l'apôtre Paul, c'est pour que nous puissions vous consoler. Il y a des gens qui ont été vraiment bénis et qui ont oublié la bénédiction et qui sont durs avec les gens. Si nous sommes consolés, c'est pour vous consoler. Si nous avons été bénis, c'est pour vous bénir. Mais il nous console aussi, il nous défend aussi par les anges qui sont envoyés pour nous secourir. Amen. Alors, c'était le rôle du sacrificateur autrefois. Il devait prier pour le peuple et Dieu l'entendait. Et aujourd'hui, notre souverain sacrificateur qui est entré dans le ciel, c'est Jésus. Et Dieu écoute toutes ses prières pour moi et pour vous. Mais pourquoi Dieu a-t-il eu besoin d'avoir quelqu'un qui prie pour nous? Pourquoi Dieu ne pouvait pas directement nous aider? Pourquoi est-ce qu'il lui faut un intermédiaire? C'est comme ça. Dieu a voulu agir en réponse à la prière humaine. Il veut avoir besoin de l'homme, de l'être humain. Et devant Dieu, il y a un homme qui nous représente, c'est Jésus. Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et pas seulement homme. Dieu aussi. Jésus est Dieu. Parce qu'un être humain ne pourrait jamais entendre les milliards de prières, les milliards de besoins de chaque instant, de chaque jour. Déjà, quand vous avez 2 ou 3 enfants, déjà, c'est le débordement. Imaginez 6 milliards, 8 milliards d'enfants, vous perdriez la tête. Et le Christ, il peut nous entendre parce qu'il est Dieu. Il peut tenir ce rôle de prier pour tous les instants de notre existence, tous les instants de souffrance, de doute, de combat, d'échec, de travail, de déchirure. Il peut prier pour tout cela. Personne ne pouvait faire ça. Il prie pour nous et nous-mêmes, déjà, il y a tellement de choses qu'on néglige. On ne prie pas tellement pour notre transformation intérieure. On prie souvent pour être guéri dans sa santé, ne plus avoir mal aux doigts ou aux pieds. Mais on ne prie pas toujours pour être transformé à l'intérieur de nous. Il y a des choses qu'on néglige, on est négligent. Il y a des dangers qu'on ne voit pas, lui il prie pour cela. Il y a des pièges qui nous attendent, il prie pour ça. Satan vous a réclamé, il prie pour ça. Il connaît tout de nous, il connaît tout ce qui habite en nous. Et je crois que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, je pense que le notre Père vient de l'intercession de Jésus. C'est un petit bout de l'intercession de Jésus. Puisque ça vient de Jésus, c'est que Jésus, il prie avec ça, il prie comme ça. Et Jésus prie pour qu'on soit un, bien unis. Il prie pour l'unité de l'Église. Pourquoi ? Parce que l'unité de l'Église, c'est le point le plus important dans la prière. Je te prie afin qu'ils soient un, pour que, quand ils vont se rassembler à l'église du Tabor, qu'ils puissent dire « Notre Père, nous sommes un ». Et quand on est unis dans l'amour, dans l'amitié, dans le pardon, la réparation, je crois que le Seigneur, il entend notre prière. Amen. Je crois que l'univers est rempli de prières. Le royaume d'en haut est rempli de prières. Le Christ n'arrête pas. On parle de la communication sur la terre, on parle de tous ces réseaux partout, mais le plus grand des réseaux, la plus grande des communications, c'est la prière de Jésus qui prie jour et nuit pour tout le monde. Enfin, je termine avec le verset de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Nous nous approchons de Jésus-Christ, médiateur. Non, nous nous sommes approchés de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Et quand on est au culte, on s'approche des anges. On s'approche de ceux qui sont déjà arrivés là-haut. On s'approche de l'assemblée des premiers-nés dans les cieux. On s'approche de Jésus, le médiateur. On s'approche de celui qui prie pour nous avec nos fatigues, avec nos maladies, avec nos enfants et nos petits-enfants. On s'approche de Jésus qui prie pour les nôtres. On s'approche avec la maison qui va mal, l'épouse qui va mal, le mari qui va mal. On s'approche de Jésus. Amen.